France Inter.
Chers amis, bonjour.
Bonjour.
2200 habitants à Saint-Gelais, ou Saint-Gelais, on prononce comme on veut, avec un E un peu plus prononcé ou un E muet. Dans le département 79, autrement dit les Deux-Sèvres, c'est le Poitou. La Sèvre Niortaise traverse la commune. Et il s'agit bien, je le rappelle, d'un fleuve, puisque ce cours d'eau se jette dans l'Atlantique en face de l'île de Ré, dans l'anse de l'Aiguillon. Sur le site actuel du village, au XIIe siècle, le comte Hugues de Lusignan a décidé de fonder un prieuré qu'il va dédier à Saint-Gelais, évêque de Poitiers. Et ainsi, la commune possède une belle église, église romane, avec une partie gothique flamboyante, donc les parties les plus anciennes datent du XIIe siècle. Un château Renaissance également dans la commune. C'est vrai que ce château domine un petit peu le vieux bourg et il domine la Sèvre justement. Et il existe également un temple protestant du 19e de forme circulaire. C'est le seul temple de forme circulaire de la région, construit en pierre de taille. Alors ici, beaucoup de constructions sont en pierre calcaire, c'est une pierre de couleur blanche ou blanc-crème. Et sur ce temple protestant, un seul décor à l'extérieur, un cartouche au-dessus de la porte, accompagné de deux volutes et d'une croix huguenote. Saint-Gelais, qui accueille les visiteurs, les touristes, qui profitent ainsi des bords de la Sèvre Niortaise. Du reste, une base de loisirs y est installée l'été. On peut avoir de nombreuses activités à partir du mois de mars et du mois d'avril, disons. Bienvenue près de Niort, donc dans cette petite commune de Saint-Gelais, avec Mathis Pangot et Gilles Savary. Qui habite sûrement les environs. Bonjour Mathis.
Bonjour Nicolas.
Vous habitez dans la Vienne voisine.
Oui, exactement, la Vienne voisine. Je suis venu dans les Deux-Sèvres spécialement pour le jeu.
Merci de nous avoir rejoints et bravo pour cette sélection. Oui. Pas facile les sélections au jeu des 1000 euros.
Non, effectivement, j'avais déjà tenté ma chance la semaine dernière à Fontaine-le-Comte. J'étais monté sur scène dans la phase de présélection, mais je n'avais pas su conclure et maintenant voilà qui est fait.
Qu'est-ce qu'on peut dire de vous, Mathis?
Eh bien écoutez, je viens assez régulièrement dans les Deux-Sèvres puisque je fais partie d'un club Question pour un champion. Plus récemment à Niort, puisqu'il y a un club qui a été très récemment fondé à Niort, dont le secrétaire est également un collègue et néanmoins ami de quiz, est un certain monsieur Gilles Savary. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ah, Gilles Savary, il a été ministre, non?
C'est possible, oui. Oui, je crois que c'est un prénom de ministre. Oui, c'est un prénom de haut fonctionnaire.
Oui, effectivement, oui, oui. Mais ce n'est pas le ministre qui joue avec nous, qui est à votre côté. C'est Gilles Savary, en effet, candidat au jeu aujourd'hui. Bonjour, Gilles.
Bonjour.
Alors, vous aussi, vous sévissez dans le club Question pour un champion de Niort.
Effectivement, oui.
Vous êtes passionné de football.
En effet, oui, je suis passionné de football et notamment des chamois niortais.
Qu'est-ce qui se passe avec les chamois niortais? Expliquez-moi.
Feu les chamois niortais, malheureusement, mais c'est un club, c'est une institution qui allait fêter ses 100 ans cette année, justement,
oui.
La gestion a été compliquée au point de devoir mettre la clé sous la porte, donc on repart de tout en bas avec le club de Niort-Saint-Florent et on espère que l'aventure va bien se passer. Voilà.
Voilà, le club va repartir sur des bases saines
tout
et solides. Et on parle toujours des chamois quand même.
Ah bah oui, de toute
façon. Pour les joueurs, ouais.
Oui, et puis c'est une institution locale, donc compliqué de se séparer du mot chamois.
Bien sûr. Gilles Savary, Mathis Pangot, des candidats assez forts, je le sens, car ils ont l'habitude de s'entraîner, on l'a bien compris. Première question bleue d'Emma et Joël Guéraud qui habitent Rodez. Comment appelle-t-on ces fêtes bretonnes du soir et de la nuit durant lesquelles on pratique danse, chant traditionnel et qui ont regagné en popularité au milieu du XXe siècle et qui se tiennent encore de nos jours et comment, et surtout l'été bien sûr. Le nom breton, le nom de ces fêtes bretonnes du soir et de la nuit.
Fest-noz ?
Les fest-noz, fest-noz. Deuxième question bleue de Gladys Villarsin-Louisor, qui habite le Lamentin en Martinique. Comment appelle-t-on les langues toujours parlées aujourd'hui qui sont nées de la cohabitation linguistique des autochtones, des colons et des déportés africains mis en esclavage dans la Caraïbe, en Louisiane et dans l'océan Indien? C'est ainsi que Gladys vous pose la question. Quel est le nom de ce type de langue?
Serait-ce le créole?
Oui, ce sont les langues créoles ou le créole. Troisième question bleue de Marie-Joseph Merdi de Landerneau dans le Finistère. On connaît l'abréviation CQFD, par laquelle on conclut parfois une démonstration. Que signifie cette abréviation CQFD ?
Ce qu'il fallait démontrer.
Ce qu'il fallait démontrer au passé, à l'imparfait. Mathis et Gilles, une question blanche de Laurent Tarel de Lyon 5e. Quelle personnalité britannique du 19e siècle traitait mal les fermiers et a subi de leur part un ostracisme et un blocus en 1879-1880 ? C'est un patronyme qui est devenu non commun.
Boycott ?
C'est boycott. Bravo. Ça vient de là. Ça vient de lui. Pour être précis, Charles Boycott était capitaine et il a été envoyé par un propriétaire terrien auprès des fermiers. Fermiers qui avaient eu une mauvaise récolte et ne pouvaient guère payer. Donc il était envoyé et il traitait mal les fermiers qui, les pauvres, avaient des difficultés financières. Boycott, d'où le terme boycott, ou boycotter, le verbe boycotter aussi. Question blanche d'Alfred Kerr de Pouenant dans le Finistère, question envoyée sur franceinter.fr. Quel est ce bovidé disparu il y a 4 siècles, ancêtre des races actuelles des bovins domestiques? Le dernier spécimen serait mort en Pologne en 1627. Quel est ce bovidé disparu, ancêtre des races actuelles des bovins domestiques, ancêtre de la vache notamment?
Oui, je pense que je vois que ça de toute façon, effectivement. On va tenter l'auroch.
C'est l'auroch.
Le rock'n'roll.
Auroch, ça s'écrit A-U-R-O-C-H-S. Question rouge de Brigitte Lemoine à Arthas, en Isère. Grâce à quel métal l'acier inoxydable résiste-t-il à la corrosion, à la rouille? Grâce à quel métal l'acier inoxydable résiste-t-il à la corrosion?
L'étain, peut-être?
Ce n'est pas l'étain.
Le zinc?
Le zinc, non plus.
Le cuivre?
Pas le cuivre.
Le fer?
Non.
L'argent, l'or, le bronze?
Le platine?
Toujours pas.
L'antimoine?
Pourtant, vous en avez des idées.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Vas-y, fais le tableau.
Cobalt?
Pas cobalt.
Manganèse?
Non plus.
Titane?
Pas le titane.
Qu'est-ce qu'il y a?
Donc l'inox, c'est un alliage de fer, de carbone et d'un troisième métal grâce auquel l'inox résiste à la corrosion. Cette question, elle vous est tout de suite reposée d'ailleurs, sans attendre. Je rappelle qu'il s'agit d'une question rouge sur France Inter, une question de Brigitte Lemoine, habitant Arthas en Isère. Grâce à quel métal l'acier inoxydable résiste-t-il à la corrosion ?
Oui, c'est parce qu'on ne sait pas si c'est un élément chimique aussi ou un alliage.
C'est un métal.
Gilles a une idée.
Oui, mais elle risque d'être très mauvaise. Hein. Je suis prof de lettres,
écoutez,
pas prof de
sciences. Que risquez-vous ?
Allez, on va sur le laiton.
Ce n'est pas le laiton, c'est le chrome.
D'accord. Ah, bah voilà, bah c'est le seul que j'ai pas tenté.
Sans regret.
Oui, c'est le seul que vous n'avez pas cité, effectivement.
c'est pas
l'inox est un alliage de fer, de carbone et de chrome. Et c'est grâce au chrome que l'inox ne rouille pas. Le chrome était la bonne réponse. Bon. Brigitte Lemoine à Arthas gagne 45 euros. Puisqu'il s'agissait d'une question rouge, Mathis Pango, Gilles Savary, vous avez répondu à 5 questions sur 6, ce qui signifie concrètement qu'en passant par le repêchage, vous pourrez peut-être tenter le...
Banco.
Repêchage. Quel est ce film? Extrait.
D'abord, il faut que tu sortes de ta cellule. Chaque barreau contient à l'intérieur 6 petites barres très dures dans un tube qui après a été rempli d'acier. Quant à un tunnel, inutile d'y penser. Fais chier. Cette île n'est qu'un rocher.
Est-ce un extrait du film Le Trou, l'armée des ombres ou l'évadé d'Alcatraz? Le Trou, l'armée des ombres, l'évadé d'Alcatraz.
Je pense que c'est l'évadé d'Alcatraz.
C'est un extrait du film L'évadé d'Alcatraz de Don Siegel avec Clint Eastwood. un classique de 1979.
Pour envoyer vos questions au jeu des 1000 euros, rendez-vous à la page de l'émission sur franceinter.fr.
Question d'Hervé Fayet, qui habite Chambéry. Question banco. Les entrées des stations de métro parisiennes ont été conçues dans un style art nouveau. On parle d'édicules, d'ailleurs, ces petites constructions sur la voie publique. Quel est le nom de l'architecte de ces entrées de métro de Paris, qui sont de très très beaux édicules et qu'il faut absolument protéger? D'ailleurs, ils sont protégés maintenant, heureusement. Les entrées des stations de métro parisiennes ont été conçues dans un style art nouveau, donc de l'époque, par un architecte français. Quel est l'architecte en question?
Monsieur Guimard.
Et son prénom?
C'est pas Hector?
C'est Hector. Oui. Hector Guimard, c'est lui. Ces petites constructions sur la voie publique, les entrées de métro, décorées magnifiquement par Hector Guimard. Banco gagné. Est-ce que nous arrêtons là le jeu? Est-ce que nous poursuivons avec vous avec le... Mathis et Gilles.
Allez. Super.
Elle vient que pourra.
La dernière question du jeu, c'est la question à 1000 euros qui a été envoyée par Franck Poulain de Bagnac-sur-Célé dans le Lot. Le copalme d'Amérique est un arbre d'ornement de la famille des Altingiacées, dont le feuillage très découpé flamboie en automne. C'est vrai que ça donne de très très belles feuilles qui ressemblent un peu aux feuilles d'érable. Elles rougissent en automne. Mais sous quel nom est plus connu cet arbre remarquable, très présent dans nos parcs et nos jardins? Donc son autre nom, c'est le copalme d'Amérique. Quel est l'autre nom de cet arbre magnifique?
C'est pas un palmier déjà, sinon ce serait pas un altingiacé. J'en sais rien. En vrai, j'ai pas mieux que ça.
Non, mais ça, ça fera, c'est les Loracées, donc c'est pas ça. Vous avez dit la famille, c'est...
La famille des altingiacés.
Aïe, aïe, aïe.
Je sais pas si ça va vous aider. Non.
Bah, on aurait non, bien aimé, non. Mais là, c'est dur. C'est
je suis désolé.
Ouais.
C'est un nom assez amusant, d'ailleurs.
Bon, écoute, on a rien tenté.
Oui, non, on a rien.
Allez, vas-y.
Non, on va dire l'arbre bouteille peut-être, mais ça ne doit pas être ça, non.
L'arbre bouteille, ce n'est pas ça.
Non, je me doutais bien.
C'est le liquidambar.
Ah oui.
Ouais.
Le liquidambar.
Non, ça ne serait pas revenu.
Ouais. Mais oui, attends, j'y ai
Copalme d'Amérique ou liquidambar. L-I-Q-U-I-D-A-M-B-A-R. Franck Poulain à Bagnac-sur-Célé dans le Lot gagne 45 euros. Vous ne repartez pas les mains vides, selon l'expression consacrée Mathis et Gilles. Pour vous, l'enceinte connectée France Inter et le livre d'Augustin Trapenard, Nos années boomerang, coédition France Inter Flammarion. Très bonne journée, merci de nous suivre et à demain, si vous le voulez bien.
Et je vous rappelle l'itinéraire à venir du jeu des 1000 euros. Étape à Saint-Clément près de Tulle en Corrèze le 27 janvier, à Nexon en Haute-Vienne le 28 et le 29 janvier en Dordogne à Nontron.